Bienvenue à tous dans l'Instant M, à écouter en direct ou en podcast.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
À France Inter, ça ne nous a pas échappé, il y a un avenir pour le son en dehors du direct, en dehors du poste de radio de votre salle de bain. Les podcasts marchent fort, on veut pouvoir consommer des contenus sonores où on veut, quand on veut. Alors bien sûr, l'offre s'étoffe. Mon invitée de ce matin, elle a lancé un podcast féministe. Bonjour Lorraine Bastide.
Bonjour Dorothée.
Ça s'appelle La Poudre et il y a déjà 3 numéros à écouter en ligne, des entretiens avec des femmes qui parlent de leur parcours et de leur engagement. On en parle dans un instant. Et ce sera l'occasion aussi de discuter ensemble du féminisme.
Avec grand plaisir.
Dans les médias en général. Avant cela, une petite dose de série télé. Et d'ailleurs, on se fait un petit plaisir pour cette semaine qui est coincée entre deux réveillons. On va parler série télé tous les jours.
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Ah, si on pouvait choisir avec qui on passe le réveillon. C'est sûr que lire Pas de famille serait plus sympa hein, si on avait le droit de faire le casting nous-mêmes. Eh bien, c'est ce que je vous propose. Toute cette semaine, on va se taper la cloche avec des personnages de fiction. Bonjour Romain Nigita.
Bonjour Dorothée.
Le spécialiste série de l'Instant M. On va vous retrouver tous les jours de cette semaine pour décider quel personnage de série télé, qu'elle soit récente ou culte, mérite de faire partie de notre fête. Et on commence bien sûr par les histoires de famille.
Et oui, puisqu'entre Tata Jacqueline qui se plaint de la météo et le beau-frère qui veut parler politique, la famille dysfonctionnelle, c'est un peu l'accessoire indispensable pour une soirée réussie. Je vous conseille donc d'inviter la famille la plus passionnante à l'heure actuelle dans le monde des séries, les triplés Kevin, Kate et Randall. Ce sont les personnages principaux de la série This Is Us, que l'on peut voir en France sur Canal+ série, et c'est surtout le gros succès de la rentrée aux États-Unis sur la chaîne NBC.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut les avoir autour de la table?
Parce qu'ils sont touchants, sans pour autant être mièvres. Alors en fait, Kevin est comédien, il essaye maladroitement de se défaire de son image de beau gosse qui en aurait plus dans les biscottos que dans le ciboulot. Au début de la série, il démissionne donc avec perte et fracas de son rôle de vedette d'une sitcom bas de gamme. C'est une scène digne due à Madazel and I'm Not Gonna Take It Anymore du film Network.
Oui, dans ce film de Sidney Lumet hein, qui s'appelle Main basse sur la télé en version française, il y a un journaliste licencié qui pète les plombs en direct et qui appelle tout le monde à hurler sa colère par la fenêtre. Kevin a donc fait la même chose dans le tournage de sa série télé.
Exactement, devant le public. Et maintenant, Kevin recherche la crédibilité en jouant dans une pièce de théâtre off-Broadway. C'est un univers qu'il accueille quand même en se pinçant le nez. Alors, sa sœur Kate a été son assistante pendant plusieurs années, mais elle va maintenant essayer de suivre sa propre voie. Pour elle, c'est comme se lancer dans le vide, d'autant qu'au même moment, elle rencontre celui qui pourrait peut-être être l'homme de sa vie. Elle doit aussi faire face à son problème de poids qui devient un véritable risque pour sa santé. Mais c'est sans doute leur frère, Randall, qui aura le plus de choses à raconter entre la dinde et la bûche. Tenez-vous bien, Randall est né le même jour que son frère et sa sœur, mais il en fait été adopté. Ah. Kevin et Kate avaient en fait un autre frère qui est mort lors de l'accouchement. Et le jour même, leurs parents ont donc décidé de recueillir ce bébé abandonné. Petit détail, Kevin et Kate sont blancs tandis que Randall est noir. C'est un élément qui n'est pas anodin et qui va affecter le jeune garçon lorsqu'il va grandir.
Bon, avec tout ça, est-ce qu'ils vont pas monopoliser la parole pendant leur pas, les personnages de cette série This Is Us?
C'est le risque en invitant les Big Three, c'est leur surnom, puisqu'ils vont vous raconter toute l'histoire de leur famille. Et quand je dis toute l'histoire, c'est vraiment toute. Car This Is Us se déroule sur plusieurs époques en parallèle. Dans chaque épisode, d'une scène à une autre, on passe des années 80 aux années 2010. On voit donc l'enfance des triplés et comment leurs parents ont parfois du mal à gérer cette famille originale. Et de nos jours, on découvre comment Randall retrouve la trace de son père biologique et les conséquences de cette découverte sur sa famille. C'est un véritable puzzle qui s'assemble sous nos yeux.
Ils vont mettre un peu d'ambiance pendant la soirée quand même?
Ils vont essayer puisque Randall va absolument vouloir chanter, mais ne le laissez surtout pas faire, car c'est seulement Kate qui a hérité de la fibre musicale de sa mère. Quant à Kevin, il va sûrement débarquer avec sa petite copine du moment et il fera des selfies avec les fans de son ancienne sitcom. Je vous conseille aussi de disposer des paquets de mouchoirs à côté de chaque assiette puisque certaines révélations vous laisseront forcément la larme à l'œil, car au fil des années et des générations, tous les membres de la famille ne survivent pas. Comme le résume Kevin avec philosophie, la vie c'est comme un tableau sans début ni fin où toutes les époques se mélangent.
It's kind of beautiful, right? If you think about it, the fact that just because someone dies, just because you can't see them or talk to them anymore, it doesn't mean they're not still in the painting. There's no dying. There's no you or me or them. It's just us.
Comme vous le voyez, les Big Three en ont gros sur la patate. Alors finalement, c'est vous qui allez peut-être leur remonter le moral le soir du réveillon.
Kevin, Kate et Randall sont donc invités à notre réveillon idéal. Et la série This Is Us est diffusée sur Canal Plus Série. C'est vivement recommandé par Romain Nejita, donc.
Tout à fait.
Et demain, on verra à qui vous demander de venir faire la cuisine. À ce réveillon, à mon avis, ce sera une brune un peu maniaque qui vit en colocation. À demain, Romain.
À demain.
Et bonne journée.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps,
n'a pas d'époque, elle marque
son époque.
Bienvenue dans La Poudre.
Et ça, c'était le générique de début de La Poudre. Lorraine Bastide est donc mon invitée ce matin. Ancienne journaliste au magazine Elle, vue à la télé l'année dernière.
Un petit peu, oui.
Vous étiez chroniqueuse au Grand Journal présenté par Maïté Nabirabin. Alors, la mode des podcasts, elle est venue des États-Unis, hein, où c'est une habitude très installée d'écouter des histoires, des entretiens en longueur, des feuilletons qui ont été conçus exclusivement pour être téléchargés et écoutés depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Le phénomène commence à s'installer en France. Il y avait déjà les chaînes de radio, bien sûr, qui proposaient leurs émissions en podcast. Arte Radio existe depuis plus de 10 ans. Et les petits nouveaux s'appellent Boxon, Binge Audio ou Nouvelles Écoutes. Ça, c'est la vôtre. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde, Lorraine Bastide ?
Ah, j'en suis convaincue. C'est une habitude nouvelle à créer. Les Français en sont vraiment au tout début de l'utilisation du podcast. Mais on peut écouter 10, 15, 20 podcasts par semaine. Et
faut avoir le temps, quand même.
Faut avoir du temps. Mais finalement, quand on commence à en écouter, on se découvre des moments pour le podcast. Moi, dans le métro, j'écoute plus que des podcasts maintenant. Je rallonge mes trajets pour pouvoir finir mon podcast. C'est une habitude à prendre.
La demande est clairement là. Pour preuve, France Inter a comptabilisé plus de 26 millions de téléchargements le mois dernier, sur le seul mois de novembre. Donc c'est 2 fois plus que l'an dernier à la même époque. Et c'est 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Pourquoi cet engouement pour les podcasts, à votre avis ?
Alors le podcast, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un outil nouveau. Ça existe depuis 2005. C'est vraiment une technique assez vintage quand on y pense. Mais je crois que ça correspond déjà à l'outil au téléphone portable. C'est devenu notre ordinateur de poche, le portable, on l'a toujours avec nous. Et je pense qu'il y a aussi un espèce de contre-coup de l'explosion des tweets et de l'écran, en fait. Le podcast, c'est l'anti-tweet. Pour moi, c'est plus un livre, un podcast, qu'un nouveau média numérique.
C'est prendre le temps.
C'est prendre le temps, c'est on rentre dans une bulle pendant une demi-heure, une heure, on rentre dans un univers, on n'utilise pas ses yeux, on n'a pas les yeux sur un écran, on peut faire autre chose en même temps, on peut regarder le paysage, on peut prendre un train, on peut cuisiner, on peut dessiner en même temps. C'est une façon de s'informer ou de se divertir en étant beaucoup plus posé et beaucoup plus en profondeur et en nuance, ce qui me semble essentiel.
Votre podcast est présenté comme féministe et il s'appelle La Poudre. Me dites pas que c'est une référence au maquillage.
Ça peut. Moi, ce que j'aime dans La Poudre, c'est son côté complètement polysémique. On peut penser à la poudre d'escampette, à la poudre qui explose, à la poudre cosmétique, à la poudre aux yeux. C'est un mot qui est féminin et qui, pour moi, veut dire... ce que je pense essentiel, mon message de base, c'est qu'il n'y a pas la femme, il y a les femmes. Et l'idée de La Poudre, c'est vraiment de briser tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur les femmes.
Mais alors pourquoi ne pas tendre aussi votre micro à des hommes ? Ils peuvent avoir un avis sur l'égalité entre les hommes et les femmes.
Alors la démarche féministe de La Poudre se résume à une chose, c'est donner la parole pendant une heure à une femme sans qu'on parle à sa place et sans qu'on lui coupe la parole. Et en fait, c'est quelque chose qui m'est venu comme une évidence face au constat que les femmes dans les médias aujourd'hui, ça représente une minorité infime de la prise de parole, que ce soit dans la position de journaliste, d'experte, d'interviewée, d'invitée. Les femmes ne s'expriment pas dans les médias. Donc je pense que c'est de bonne guerre de leur ménager un espace exclusif.
Et dans le deuxième épisode qui est en ligne, la chanteuse Inna Modja se livre sur son enfance.
J'ai été excisée quand j'étais enfant, j'avais 4 ans et demi. Et j'étais en vacances avec ma mère et mon petit frère au Mali. Et on devait... ma mère était là pour faire des démarches administratives. Et un jour, elle est sortie, elle m'a laissée avec mon petit frère. Et la sœur de ma grand-mère, qui pensait que mes parents étaient un peu trop modernes et un peu trop émancipés des traditions, m'a prise et m'a emmenée et m'a fait exciser. Et je pense que ça, c'était tragique pour mes parents. Ça l'a été pour moi. Mon rite de passage de l'âge de l'enfant à la femme a été inexistant, en fait. J'ai dû, moi, me réapproprier ça quand je me suis fait opérer. C'était une chirurgie réparatrice pour réparer l'excision.
La chanteuse d'origine malienne Ina Modja, à votre micro, Lorraine Bastide. Des femmes exceptionnelles pour une conversation personnelle, hein, c'est la promesse qu'on lit sur votre site. Est-ce que l'ambition, c'est de montrer des modèles de femmes ?
Oui, je pense qu'il faut montrer aux jeunes femmes des femmes différentes, de milieux, de cultures différentes pour qu'elles puissent être inspirées et qu'elles aient envie de prendre le haut de l'affiche, de changer le monde elles aussi. Et mon souci premier, c'est ça, c'est de représenter les femmes pour qu'elles inspirent d'autres femmes.
Alors, les deux premiers épisodes durent 45 minutes. Est-ce que c'est votre passage à la télé qui vous a convaincu que c'était pas si mal de prendre le temps parfois ?
C'est lié, ouais.
Le Grand Journal, ça a été dur à ce titre-là ?
En tant que journaliste, en fait, j'ai vraiment très mal vécu le fait de devoir synthétiser ma pensée en 1 minute 30, les bonjours.
Mmh. Les bonjours.
Les bonjours. C'est difficile de débattre de questions complexes comme ont pu l'être l'année dernière, ce qu'il y avait sur l'actualité, autour du voile, autour de toutes les questions qui agitent l'actualité aujourd'hui et qui touchent les femmes. On répond pas à ces questions en 1 minute. Moi, je pense qu'on répond à ces questions déjà en parlant aux personnes concernées et en leur donnant un espace de parole suffisant pour que toutes les nuances s'expriment. Et d'ailleurs, Ina Modja, après ce passage que vous avez diffusé, explique qu'elle n'en veut pas à la grand-tante qui l'a emmenée se faire exciser, qu'elle est dans une indulgence vis-à-vis de cet acte parce qu'elle sait qu'il vient d'un manque d'éducation, que c'était son monde à elle, les traditions.
Et c'est en donnant la place à la parole en longueur que vous accédez à cette subtilité du propos.
Exactement, c'est exactement l'idée.
Quelle est la part de sexisme dans la façon dont a été perçu, commenté le Grand Journal période Maïté Nabirabin, à votre avis ?
Bah, je reste assez convaincue que si on avait mis à la tête du Grand Journal un homme avec la même bouteille que Maïtena, elle n'aurait pas, il n'aurait pas été soupçonné de pas être compétent, par exemple, pour faire ce job.
Ou un peu trop à poigne, c'est ce qu'on a beaucoup entendu.
Oui, après voilà, ou alors soit elle était trop à poigne, soit elle était pas assez compétente. Enfin bon, c'est des reproches classiques qu'on fait aux femmes, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les statistiques, c'est
au final, études. Au final, vous êtes restée un an à la télé. Ça suffit comme ça ?
Oui, ça ira, ouais, ouais, c'était bien.
Merci, c'est bon. La presse féminine incarne-t-elle le féminisme qui vous convient aujourd'hui, Lorraine Bastide ?
J'ai un immense respect pour le magazine Elle. C'est le journal qui m'a formée, qui m'a appris.
Vous avez passé 10 ans.
J'ai passé 10 ans là-bas. J'ai commencé, j'étais un bébé. J'ai été formée par des femmes magnifiques, que ce soit Valérie Torragnan, Sophie Fontanelle, Véronique Philippona. Enfin, bon, j'ai eu des coachs extraordinaires, Dorothée Werner. Enfin, j'en oublie évidemment. Mais La Poudre, c'est aussi le fruit d'une réflexion qui est née de ça. Au fil des années, j'ai compris que le Elle s'adressait et représentait une femme très spécifique au fond. Une femme blanche, hétérosexuelle, d'un milieu plutôt bourgeois.
Qui a des enfants et un travail.
Voilà, qui s'intéresse à la cuisine et à la mode. On est quand même sur un créneau très, 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 très restreint. Et ça a commencé à me travailler de plus en plus intensément dans cette idée que, en fait, à qui on parle et quelles sont les idées qu'on défend et en quoi le combat féministe qui nous semble important, nous, en tant que femmes blanches d'un milieu bourgeois, ok, la parité salariale, c'est hyper important, mais si on était née ailleurs, si on était différente, est-ce qu'on aurait les mêmes priorités et les mêmes désirs ? Donc je pense que le L et la presse féminine en général, parce qu'il y a Marie-Claire Grazia qui porte aussi ces messages-là, sont essentiels. Parce que c'est des messages qui s'entendent très fort, mais qui ne suffisent évidemment pas.
Il y a un autre problème avec la presse féminine qui a été pointé récemment par le site Les Jours. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête. Une enquête intitulée « Le tuto du maquillage de l'info ». Article qui montrait comment la presse féminine est inféodée aux marques de cosmétiques. Alors pas seulement dans les pages de pub, hein, comme on le croit, mais aussi dans les articles écrits par des journalistes. Ça vous surprend, Lorraine Bastide ?
Non, ça me surprend pas. La cosmétique, c'est devenu aussi la source de revenus numéro un de toutes les marques de luxe. On sait tous que si, je peux pas dire de marque, mais les grosses marques de luxe ont autant de pouvoir aujourd'hui, c'est qu'elles vendent beaucoup de parfums et de crèmes de jour. Donc c'est simplement des enjeux économiques.
Le mot beauté ou cosmétique revient toutes les semaines à la une du magazine Elle. Se renouveler dans ces conditions, ça relève de l'exploit. Mais le plus fort, c'est de jamais critiquer les marques. Et Erwan Seznek, journaliste des Jours, donc, de souligner la rafraîchissante pluie de contre-vérités que la presse féminine déverse chaque semaine sur les terres arides de l'information vérifiée. On a là un problème d'indépendance des journalistes.
On l'a, mais en même temps, je trouve magnifique ce que font Les Jours et je trouve fantastique ce qu'est en train de lancer Pascal Clark avec Boxon. Mais nous, par exemple, chez Nouvelles Écoutes, on veut des annonceurs, on veut des pubs, car on a la prétention folle de payer les gens avec qui on travaille, qui sont des ingé-sons, des compositeurs, des réalisateurs sonores, comme Aurore Maillot qui a fait mon générique qu'on a entendu tout à l'heure, qui sont fabuleux. Et pour les payer, il faut qu'on ait des marques qui ont envie d'annoncer chez nous et on n'a pas... on n'a pas à en rougir. Je pense que c'est un système qui a fait ses preuves. Après, voilà, faut les choisir, faut rester indépendant vis-à-vis d'eux. Et c'est quelque chose qui est faisable quand on est un bon journaliste, je pense.
Alors justement, dans La Poudre, on vous entend, vous, Lorraine Bastide, commencer chaque épisode par donner la marque de votre micro, ouais, par citer le nom de l'hôtel qui vous héberge.
Tout à fait.
Ça vous a dérangé sur le principe ?
Au contraire, c'est tout à fait volontariste. En fait,
c'est de la pub et vous
assumez. C'est de la pub parce que bon, pour l'instant, on n'a pas encore d'annonceur. On vient de se lancer, on est une start-up. Mais je voulais que cet espace publicitaire soit marqué dès le départ pour que l'auditeur comprenne que là, il y aura 30 secondes de pub. Et c'est grâce à ça que l'émission existe et c'est grâce à ça que d'autres émissions seront créées par la suite.
D'autres ont choisi de faire payer un abonnement, notamment Pascal Clark, hein, qui a d'abord lancé un appel au financement participatif pour créer Boxon. Ensuite, il faudra payer un abonnement pour écouter les contenus. C'est prévu pour février prochain. Vous avez hésité, vous, à opter pour ce modèle ?
Non, pas du tout. En fait,
Est-ce qu'on est prêt à payer pour écouter du son en
podcast ? Oui, on est prêt à payer. Moi, je suis abonnée à plusieurs sites maintenant de presse écrite que j'adore lire, même si la pratique paraissait encore étonnante il y a 5 ou 6 ans. Bah, on a tous notre abonnement maintenant à certains journaux. Le truc important pour nous, c'est que l'application podcast des iPhones est gratuite. Et on ne peut pas y mettre un contenu payant. Nous, ce qui était important pour nous, c'est d'être sur cette application-là, sur Deezer, sur SoundCloud, qui sont des endroits où on ne peut mettre que des contenus gratuits. Donc on touche un public plus large en mettant ce contenu gratuit et c'était pour nous l'objectif principal d'avoir une vaste audience.
La Poudre sera-t-elle rentable ? Et si oui, quand ?
C'est pas l'objectif. Nouvelles Écoutes a vocation à créer d'autres contenus, des contenus qui peuvent être en coproduction avec d'autres médias, ou même des contenus qui peuvent être conçus pour des marques. Et tout ça pour pouvoir continuer à faire La Poudre de façon la plus indépendante et joyeuse possible.
Nouvelles Écoutes, ce sont deux émissions pour l'instant.
Hein. La vôtre
est Banquette, faite par un homme pour parler de foot.
Oui.
Peut-être qu'il aurait fallu faire l'inverse.
On est dans le cliché de genre, je l'avoue. Mais dans Banquette, on parle de foot différemment.
On entend bien ce que vous dites, hein, que il y a un manque d'informations féministes dans les médias aujourd'hui. Vous diriez quand même qu'il existe quelque part un îlot qui sauve le tableau ?
Oui, il y a des fantastiques médias féministes aujourd'hui. Il y a Chic Magazine. Elles sont nécessaires. Elles sont trois filles.
Chic, ça s'écrit C-H-E-E-K d'ailleurs.
Voilà, comme les joues en anglais. Il y a la newsletter Les Glorieuses qui s'est lancée il n'y a pas très très longtemps aussi. Et puis il y a tout un espace de parole qui se crée sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus libre, qui est assez puissant. Et moi, je suis de près aussi toutes les jeunes féministes, notamment intersectionnelles, qui ont trouvé sur Twitter, sur Tumblr et sur Instagram des espaces d'expression à elles. Et ce sont les nouveaux médias aussi, ces espaces-là.
Merci beaucoup, Lorraine Bastide.
Merci à vous, Dorothée.
Votre podcast s'appelle donc La Poudre et c'est à retrouver sur le site nouvellesécoutes.fr. 3 épisodes en ligne disponibles gratuitement. Très belle journée à vous.
C'est ça, bonne journée.
Et voilà qui tombe à point nommé. On est le 26 décembre, on va faire l'éloge du gras.
Bonjour Dorothée Barba,
bonjour,
ça fait plaisir de vous voir.
Et grand bien vous fasse.
On s'intéresse aux bienfaits du gras. Vous aimez le gras, vous aimez manger gras.
J'adore ça, évidemment.
Chocolat, rillettes, pâté, beurre. Eh bien écoutez, on va réhabiliter tout ça ce matin. Voilà, avec le docteur Laurent Chevalier et Erwan Montéour notamment.
Rendez-vous au standard de
01 45 24 7000 pour poser toutes vos questions sur le gras.
Et grand bien vous fasse @radiofrance.com. A tout à l'heure, ce sera après les infos.